L'esprit des lieux chez les fourmis. C'est un lieu, le monde des fourmis, un lieu extraordinaire. Surtout les fourmis dont nous allons parler, les fourmis Atta. Elles sont probablement les plus organisées de tout le monde animal. Pour nous en parler, Alain Lenoir, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'université de Tours, mais surtout, vous êtes spécialiste du comportement animal, et spécialement du comportement des fourmis, et vous avez été conseillé pour la traduction de ce livre qui vient de sortir, « L'incroyable instinct des fourmis », dont les auteurs sont les meilleurs spécialistes mondiaux de ces animaux, Bert Hubdobler et surtout Edward Wilson, l'Américain, qui a consacré toute sa vie à l'étude de ces bêtes sociales qui nous donnent des exemples stupéfiants.
Tout à fait. Bert Hubdobler aussi a travaillé toute sa vie sur les fourmis. C'est un Allemand qui est parti ensuite dans le même labo qu'Edward Wilson aux États-Unis.
Ils étaient très proches pendant toute leur vie professionnelle et encore maintenant.
Ils ont écrit de très nombreux livres ensemble. Enfin, ils ont vraiment c'était vraiment un travail en collaboration très proche.
Alors, ce livre est consacré à un groupe tout à fait particulier de fourmis, les fourmis Atta. Qu'est-ce que c'est que ce monde des fourmis Atta?
C'est un monde très, très élaboré avec des fourmilières géantes qui ont la particularité d'être capables d'utiliser les feuilles et les végétaux, même de manière plus générale, mais surtout des feuilles ou des fleurs, pour leur alimentation et pour élever leurs larves, pour élever les jeunes, les bébés fourmis, si vous voulez.
Alors, ce qui est particulier, c'est que ce sont des fourmis agricultrices, qui ont été agricultrices bien avant les hommes.
Qui ont porté l'agriculture, tout à fait.
Avec ces feuilles, qu'elles réduisent en espèce de purée, elles font comme un substrat
comme
sur lequel
compost,
elles font
compost
sur lequel elles font pousser des champignons. Et c'est de ces champignons dont elles vivent. C'est fabuleux.
Alors elles utilisent le champignon pour digérer les feuilles parce que comme la plupart des animaux, les fourmis et les insectes en général ne sont pas capables d'utiliser pour leur alimentation les végétaux. Il y a de la cellulose et plein d'autres molécules qui n'est pas possible de digérer.
Alain Lenoir,
par exemple, sont capables de le faire, mais très peu d'animaux sont capables de le faire.
Alain Lenoir, depuis quand existent les fourmis Atta?
On estime à peu près 50 à 60 millions d'années. C'est-à-dire peut-être, j'espère pas dire une bêtise, mais vers la fin des dinosaures à peu près.
Et alors elles sont géographiquement situées où ?
Alors elles sont géographiquement situées uniquement sur le continent américain, c'est-à-dire le sud des États-Unis, mais surtout l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, où elles peuvent être très très fréquentes.
Est-ce qu'il y a une raison à ça, d'être limité au continent américain ?
Non, on n'a aucune raison. Probablement, l'évolution a fait que ces espèces se sont développées après la grande dérive des continents qui a séparé l'Afrique de l'Amérique. Et en Afrique, par exemple, la même niche écologique est remplie essentiellement par des termites qui vont digérer les feuilles.
Donc, qui ont un peu le même comportement.
Qui ont un peu le même type de vie, d'alimentation, oui, tout à fait.
Alors, comment se passe une vie de reine Atta?
Bon, alors, la vie d'une reine Atta, c'est d'abord d'être élevée dans une fourmilière, dans une grande fourmilière. Et puis, quand elle arrive à maturité, elle va s'envoler. C'est ce qu'on appelle le vol nuptial. Et elle va s'accoupler, soit en vol, soit à terre. Les attas s'accouplent en général avec plusieurs mâles.
Est-ce qu'il y a une raison ?
Pardon ?
Est-ce qu'il y a une raison génétique ?
Alors la raison, c'est à la fois génétique et à la fois pratique, parce que cette reine, elle vit très longtemps. Elle est capable de vivre probablement plus d'une quinzaine d'années. Donc il faut qu'elle ait une réserve de spermatozoïdes parce qu'elle ne ressortira plus jamais. Elle ne pourra plus s'accoupler. Donc il faut qu'elle ait suffisamment de spermatozoïdes pour toute sa vie. Et ensuite, la raison génétique, c'est que s'il y a plusieurs mâles, ça introduit de la diversité génétique dans la colonie, et c'est en général favorable, ça permet une meilleure résistance aux infections, par exemple.
Alors, une fois qu'elle a été fécondée par les mâles, que deviennent les mâles ?
Ah, les mâles meurent. Les mâles, chez les fourmis, ben c'est un peu comme chez les abeilles. Les mâles ont une durée de vie très courte. Ils vivent quelques semaines, enfin pas très longtemps. Et dès qu'ils sortent de la colonie ou pour le vol nuptial, ils s'accouplent et ils vont mourir, en général, mangés par des prédateurs très très rapidement.
Et alors la reine, elle s'installe, elle organise un nouveau nid.
Elle va d'abord couper ses ailes. Ensuite, elle va essayer de creuser un petit trou ou utiliser un trou dans la terre. Et là, elle va s'installer. Le nid est fermé au début. Et elle va commencer à faire son compost. Alors non pas en utilisant des feuilles, mais en utilisant simplement ses fesses. Et elle inocule le champignon sur ses fesses. Et le champignon, elle a pris la précaution d'en emporter avec elle. Elle garde dans sa bouche un tout petit morceau de mycélium de champignon pour pas perdre la souche, pour pas perdre ce précieux champignon qui va lui aider à digérer les feuilles.
C'est quasiment un champignon magique.
C'est un champignon magique, si vous voulez, oui. En fait, c'est un champignon tout bête. Hein. Ça ressemble au champignon de Paris, sauf que il ne fructifie pas dans la colonie.
Il n'a pas le temps.
Il n'a pas le temps et surtout les fourmis l'empêchent de fructifier.
Donc ce premier compost, c'est là où elle pond ses premiers œufs.
Voilà, oui.
Alors, la colonie est organisée, comment est-ce qu'il y a une hiérarchie très évidente ?
Ben pas au début. Dans la jeune colonie qu'on appelle une fondation, il y a très peu d'ouvrières, mais rapidement, effectivement, ils vont devenir plusieurs centaines, plusieurs milliers. Et là, on a une hiérarchie qui est très très fonctionnelle, avec des différences de taille, depuis de très grosses fourmis qui peuvent faire 1,5 cm jusqu'aux minuscules qui font 2 ou 3 mm.
Et ces minuscules, pourquoi sont-elles si petites et à quoi servent-elles ?
Alors, les plus petites restent tout le temps dans le nid. Et ce sont elles qui s'occupent du champignon et qui s'occupent de nourrir les larves. Et ce sont elles qui vont récolter les champignons. Alors, ce qu'elles mangent, c'est pas comme nos champignons de Paris. Elles mangent des petites boules qui sont faites à partir du mycélium. Et ces petites boules, elles les donnent aux fourmis. Elles les donnent aux larves.
Aux larves, oui.
Voilà.
Alors, il y a cette extraordinaire catégorie des coupeuses. Alors, elles sont entre les très grosses et les très petites.
Alors, elles sont de taille suffisante pour avoir des mandibules fortes qui leur permettent effectivement de couper les feuilles. C'est très spectaculaire. Elles sont capables de... C'est vraiment comme, je sais pas, on pourrait dire, une espèce de scie sauteuse, là.
Il y a des photos, d'ailleurs, dans le livre.
Il y a
des photos de leurs mandibules, voilà. Ça fait peur.
Oui, tout à fait. Elle est plus grosse quand elle s'attaque à l'homme, elle coupe, ça saigne très fort.
Elles peuvent couper la peau ?
Ah oui, sans problème, oui. Oui.
Alors, elles coupent les feuilles. Est-ce qu'elles ont le choix des végétaux ?
Alors, elles s'attaquent à pratiquement tous les végétaux, mais il y a quand même certains végétaux qui ont des substances un peu répulsives, des arbres, des substances que les fourmis n'aiment pas. Donc ces arbres-là sont protégés. Mais pratiquement tous les végétaux, la plupart des végétaux, et alors ça peut être dangereux si ce sont des plantations de mangue, par exemple, ou des plantations de cacaoyers, etc. Ça peut être dangereux parce que une colonie peut défolier un grand nombre d'arbres très rapidement.
Est-ce qu'elles font des coupes toutes identiques ?
Des coupes toutes identiques ? Non, ça dépend de la taille de la fourmi. Les plus grosses font coupent des morceaux plus gros.
Et alors ces morceaux, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Pardon, alors il y a toute une chaîne qui s'installe. C'est-à-dire que elles font des pistes et elles rapportent ces morceaux de feuilles dans leur nid. C'est spectaculaire. Hein. D'ailleurs, en Guadeloupe, on appelle ça les fourmis parasols, parce qu'elles se baladent avec, entre leurs mandibules, un morceau de feuille qui est dressé, qui pourrait faire penser vaguement à un parasol.
Oui. Et alors, on voit aussi dans ce livre des petites fourmis qui sont sur ce soi-disant parasol.
Voilà.
Quelle est leur utilité ?
Alors, leur utilité, elle est très, très surprenante. En fait, ces fourmis sont des sortes de gardiennes parce qu'il y a des mouches parasites qui essaient de venir pondre. Profiter que la fourmi est occupée avec son morceau de feuille, elle ne peut pas se défendre, et ces mouches parasites viennent pondre dans l'abdomen. Et c'est un ver qui se développe et ça tue la fourmi.
Donc il faut protéger absolument ces transporteuses
voilà.
qui sont...
Et ces petites ouvrières vont chasser ces mouches. C'est assez spectaculaire.
Alors, pour transporter leurs feuilles au nid, elles tracent des véritables routes.
Elles font de véritables routes, de véritables autoroutes où il y a un défilé continu de fourmis dans les deux sens. C'est très spectaculaire de voir ça en pays tropical.
C'est large comme quoi, leur petite route?
C'est pas très très large, hein, ça fait 3-4 centimètres.
Oui, mais c'est déjà pas mal.
Elles
éliminent tout ce qui peut les gêner sur cette route.
Oui, voilà. Alors, elles dégagent la route en plus. Elles enlèvent les gros graviers. Ça fait vraiment une piste.
Alors, elles rapportent au nid ce végétal qui va servir d'engrais, de compost.
Voilà.
Est-ce que le nid est protégé?
Alors, le nid est protégé, bien sûr, oui, parce que à la surface, on voit une espèce de monticule, on voit pas grand-chose, et toutes les entrées sont gardées par ces grosses fourmis soldats avec les grosses mandibules, et qui empêchent l'entrée du nid à tout individu étranger.
Alors, les élevages de champignons se font dans des jardins souterrains ?
Dans des chambres spéciales, voilà. Les feuilles sont d'abord broyées par les ouvrières moyennes et petites. Elles sont broyées, mélangées avec de la salive, donc ça fait ce compost de feuilles, et on ensemence le champignon dessus.
Et alors le champignon, combien de temps met-il à pousser ?
Oh, c'est rapide, je pense. J'ai pas de chiffres précis, mais moins d'une semaine. Hein. C'est vraiment très très rapide.
Alors ce champignon, il sert pour le couvain ?
Le champignon sert pour le couvain. Le champignon, il forme des petites boules qu'on appelle des mycothètes. Bon, il y a des noms, des chouraves, on appelle ça aussi. C'est un nom particulier. Et c'est ce qui est donné aux larves.
Alors, il faut le renouveler perpétuellement, donc.
Ah, tout à fait. Dès qu'il a été utilisé, après, il n'est plus intéressant, donc il devient tout gris, et il finit par mourir. Donc, il faut réensemencer en permanence.
Alors, qu'est-ce qu'on fait du vieux champignon ?
Le vieux champignon, comme il risque d'être envahi par des bactéries et puis par d'autres microbes, eh bien, il est sorti de ces coins-là et il est entreposé dans des chambres spéciales, des chambres de détritus. C'est très hygiénique, la colonie.
C'est-à-dire qu'elles ont résolu le problème des déchets ?
Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Elles ont des chambres spéciales. Elles ont leur tas d'ordures, voilà, et qui ne sont pas mélangées du tout avec les chambres de culture.
Et alors, est-ce que ce champignon et son soubassement de compost, est-ce qu'il peut être envahi par, je sais pas, des bactéries ?
Bien sûr, bien
alors,
sûr.
Qu'est-ce qui se passe ?
C'est une lutte permanente pour l'hygiène. Alors, en plus, il y a d'autres champignons qui sont des champignons parasites qui peuvent venir essayer de tuer le bon champignon, le champignon qui sert à la culture. Alors les fourmis ont inventé un système extraordinaire qui est qu'elles ont domestiqué aussi des bactéries qui vont lutter contre ces champignons.
Alors ces bactéries savent quand il faut agir ?
Ah ben les bactéries, oui, elles sont sur le corps de la fourmi dans des petites anfractuosités de la cuticule et elles sécrètent des espèces d'antibiotiques. On devrait dire antifongiques d'ailleurs plutôt. Puisque,
oui, puisque c'est du champignon.
C'est pour des champignons.
Oui.
Mais c'est la même, on parle d'antibiotiques parce qu'au niveau chimique, c'est à peu près la même nature chimique que des antibiotiques traditionnels.
Alors finalement, les castes ont chacune leur fonction. On peut parler de castes dans ce cas-là.
Tout à fait, bien sûr.
Et elles ne se mélangent pas. Elles savent ce qu'elles ont à faire dès leur naissance.
Ce qu'elles ont à faire, exactement. Oui, en fonction de leur taille et puis en fonction de leur âge aussi.
Parce que les plus jeunes ne font pas.
Les plus jeunes restent toujours dans le nid. Et après, quand elles commencent à être un peu plus âgées, elles vont commencer à sortir, à aller explorer, et puis finalement devenir récolteuses.
Et les plus vieilles, quelles sont leurs fonctions spécifiques?
Ah ben les plus vieilles, si ce sont des petites fourmis, elles vont rester dans le nid, ça ne change pas, mais quand ce sont des moyennes ou des grandes, ben elles vont devenir fourrageuses pour aller récolter la nourriture et puis défendre la colonie.
Oui. Alors on va faire une pause musicale et après on parlera de la communication chez ces fourmis.
D'accord.
Baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia. Vem com a primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia.
Nous sommes avec Alain Lenoir pour parler de livres de Bert Hulbert et Edward Wilson, L'incroyable instinct des fourmis. Vous avez reconnu la musique de Gilberto Gil, ce chanteur brésilien tellement célèbre, qui vit dans cette région où il y a les fourmis Atta. Alors, les fourmis Atta, on les trouve partout en Amérique, dans les Amériques, ou dans des zones particulières?
Oui, en fait, on les trouve dans les zones tropicales. Il faut qu'il y ait suffisamment de chaleur et d'humidité. On ne les trouve pas dès qu'on sort des zones tropicales. On ne les trouve plus, ou alors on va trouver d'autres fourmis attines, mais des plus primitives, qui forment des colonies beaucoup plus petites.
Alors ce qui est impressionnant, c'est la description et les photos des nids. Ils sont énormes.
Ah, les nids sont énormes. On voit pratiquement rien à la surface, mais dessous, il faut imaginer une maison, une grosse, grosse maison, avec au moins deux étages. C'est immense dessous. Ça, je crois qu'il y a des... On a essayé d'injecter du béton dans certains nids en Argentine, par exemple, et je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est...
6 tonnes.
60 tonnes, voilà, j'ai retrouvé. 60 tonnes pour un nid de 6 ans seulement. Donc ça veut dire que quand on a des nids qui ont 15 ou 20 ans, ça peut être beaucoup plus.
Ça fait quelle taille comparé à une cabane humaine?
Ah, beaucoup plus, c'est une vraie maison. Hein. Imaginez une maison de 4-5 mètres de haut et puis sur une circonférence d'une dizaine de mètres. C'est vraiment immense.
À l'intérieur, il y a des nids qui sont plus ou moins ronds, oui, qui sont reliés par des petites routes.
Qui sont plus ou moins des chambres, qui sont des poches en fait, et qui sont toutes reliées par un système de tunnels.
Et alors, est-ce que cette structure, elle tient? Ou est-ce qu'il faut la refaire constamment?
Ah non, elle est très stable. Les murs, les parois sont maçonnés avec de la salive et puis de l'argile. Donc c'est très stable, c'est très dur. C'est très solide.
Alors, comment communique-t-elle, vous qui êtes un spécialiste du comportement animal? Vous avez dû être très intéressé par le système de communication des fourmis Atta.
Alors là, les fourmis, c'est une fourmi, c'est une véritable usine chimique. C'est-à-dire qu'elles sont capables de produire des substances qu'on appelle des phéromones, qui sont des substances qui leur permettent de communiquer. Et les Atta, c'est très spectaculaire parce qu'elles ont une phéromone de piste qui est extraordinairement efficace. Je crois qu'avec 1 mg, on pourrait tracer la phéromone pour faire 2 ou 3 fois le tour de la Terre, quelque chose comme ça. J'ai pas le chiffre précis en tête, mais c'est absolument spectaculaire. Ça agit à des quantités infinitésimales.
Est-ce qu'il y a d'autres moyens de communication?
Ah oui, à quel niveau?
Alors, je crois que Wilson parle de stridulation.
Alors, oui, tout à fait. Alors, la stridulation chez les attas, elle sert au moment du coupage des feuilles. Les coupeuses, elles stridulent en même temps. C'est pour informer leurs congénères qu'elles sont en train de travailler ou éventuellement de venir là pour attirer des congénères parce qu'il y a des feuilles intéressantes.
Pour faire le transport ou pour...
Et après,
ah oui, ou pour venir sur l'arbre.
Voilà, oui, tout à fait.
Alors, est-ce que pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une stridulation?
Alors, la stridulation, bah, c'est une espèce de musique, un peu comme un violon. Au niveau de l'abdomen des fourmis, il y a un stylet et un grattoir. Donc, quand la fourmi bouge l'abdomen, le grattoir frotte le stylet, ça émet des sons, alors évidemment inaudibles à l'oreille humaine, sont plutôt des ultrasons, mais que les fourmis entendent parfaitement.
Alors, Alain Lenoir, le sous-titre de ce livre, c'est « De la culture du champignon à la civilisation ». Est-ce que ce n'est pas un peu excessif?
Bah, tout à fait, bien sûr.
Bon.
C'est un livre grand public, hein, donc c'est un livre de vulgarisation. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment parler d'une civilisation chez les fourmis, au sens humain du terme.
Mais quand même, il faut parler de ce que Edward Wilson a apporté dans la compréhension des sociétés animales.
Alors Wilson a popularisé, beaucoup travaillé sur la sociobiologie, en fait, c'est-à-dire l'étude des bases biologiques des comportements sociaux. Et dans le cas des fourmis et des abeilles aussi, on a un phénomène tout à fait intéressant qui est l'altruisme génétique, c'est-à-dire que certains individus vont sacrifier leur reproduction au bénéfice de la société.
Vous pouvez expliquer un peu plus précisément, parce que c'est quelque chose qui intrigue.
Ça intrigue beaucoup, tout à fait, oui. Ça veut dire, par exemple, que les fourmis, en fait, elles, même si elles sont fertiles, les ouvrières, souvent, sont stériles. Donc, l'évolution, la sélection naturelle a fait que, finalement, elles abandonnent leur capacité à se reproduire. Tout être vivant a fondamentalement un but de se reproduire. Alors ces ouvrières stériles, elles ont abandonné cette capacité au bénéfice de la colonie et en fait elles vont élever leurs sœurs pour reproduire d'autres colonies. Et ça c'est fondamentalement le travail de Wilson qui a repris d'ailleurs les travaux d'un Anglais de quelques années auparavant qui s'appelle Hamilton, qui avait présenté pour la première fois cette théorie. Donc cet altruisme, en fait, il permet un développement extraordinaire des groupes sociaux. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'un terme un peu compliqué, de e-socialité ou la socialité vraie.
Alors est-ce que ça veut dire qu'elle défavorise d'autres fourmis?
Pardon, quelle?
Qu'elle défavorise celles qui ne sont pas leurs sœurs?
Ah, oui, tout à fait. Dans la mesure où on est altruiste, il faut être altruiste envers un individu qui est génétiquement apparenté. Donc c'est pour ça que les colonies de fourmis sont très fermées. Tout intrus étranger sera rejeté, il sera reconnu justement par des phéromones. Des phéromones d'identification qui sont sur la cuticule.
Alors le premier livre de Edward Wilson sur cette sociobiologie, il date de 1975.
Oui.
Et il a été très critiqué tout de suite.
Oui, tout à fait. Oui.
Pourquoi?
Alors il a été critiqué non pas par ce qu'il apportait sur les insectes, mais parce que un certain nombre de personnes ont voulu à cette occasion élargir le système à d'autres sociétés, y compris la société humaine. Donc, transposer simplement comme ça, c'était évidemment donner naissance et donner lieu à des polémiques.
Est-ce que lui, Wilson, l'avait souhaité, cette transposition?
Non, pas du tout. C'est plutôt les gens qui ont utilisé les travaux de Wilson. Wilson est resté très prudent. Enfin, quand même, je pense qu'il a eu quelques petites imprudences, mais très très vite il a pris ses distances. Et d'ailleurs récemment il vient de sortir un livre avec des mathématiciens américains où il dit que finalement, la sélection de parentèle, comme on la trouve dans la sociobiologie, c'est probablement pas un des facteurs très importants de l'évolution. Il a changé, il est en train de changer d'idée à l'heure actuelle.
Et pourtant, c'est un monsieur d'un certain âge.
Ah, tout à fait.
Il faut reconnaître ce mérite, que j'admire. D'évoluer lui-même dans ses opinions quand il voit que l'expérience contredit ce qu'il croyait il y a 20 ans.
Tout à fait, parce qu'il y a de trop nombreux cas qui ne peuvent pas s'expliquer par cet altruisme lié à la sélection des parents. Donc Wilson dit c'est sûrement un des facteurs d'évolution, mais ça ne peut pas être le seul.
Alors Wilson s'est aussi fait connaître pour un autre thème. Il y a quelques années, il a écrit un livre intitulé « Sauvons la biodiversité », c'est qui n'avait rien à voir avec son monde des fourmis. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce livre pamphlet ?
J'irai même plus loin. Je pense que c'est l'un des premiers à avoir vulgarisé le terme de biodiversité. Mmh. Avant, on n'utilisait pas ce terme. Donc, et pourquoi il l'a fait ? Je pense parce que c'est quelqu'un de très ouvert sur l'environnement, sur le monde, et il a une bonne connaissance des forêts tropicales. Et c'est là où il y a une biodiversité extraordinaire. Quand on passe de chez nous, si on va en forêt tropicale, on s'aperçoit que c'est un monde foisonnant. Là où en France, on a dans nos régions tempérées du bassin parisien, on va avoir 30-40 espèces de fourmis. Dans une centaine de mètres carrés en Guyane, on va en avoir 300 ou 400.
Oui. Alors, il a été jusqu'à dire dans ce livre qu'il fallait absolument que les enfants soient éduqués à la nature et que c'est un élément de la citoyenneté. Il va loin.
Oui, mais je pense qu'il a... Bon,
vous avez une demi-minute pour...
Il faut aller aussi loin, mais je pense qu'il a raison. Bon. Il faut éduquer les enfants à leur environnement, à la nature, d'autant plus que maintenant, les enfants des villes ne savent plus ce que c'est. Hein. Moi, j'ai vu récemment des enfants qui ne savaient pas reconnaître un bélier d'une brebis. Hein.
Oui. Alors...
On perd le contact complètement.
Merci Alain Lenoir. Je rappelle le titre du livre d'Edward Wilson et Bert Hulldobler, L'incroyable instinct des fourmis aux éditions Flammarion.
Merci beaucoup. Merci.